Alors, je pose ma question. Quel est l'obstacle majeur en situation transculturelle? Les préjugés culturels du médecin? Oui ou non? Donc, on vous demande une réponse par oui ou non.
Voilà. À vous de jouer. Alors, on se chauffe là, hein, parce que rupture de style. Hein. Voilà. Alors, pendant quelques minutes, avec un inconnu, mais justement, c'est l'exercice. Hein. C'est l'exercice de la rencontre culturelle. Voilà, d'essayer de discuter. Et puis après, vote. Alors, à vous de jouer. Alors, peut-il y avoir des votes par groupe? Non? Alors, appel à vote par groupe. Alors, Marie-Rose, viens voir un peu les débuts des résultats. Alors, il y a une tendance, oui.
Ah oui, c'est la tendance
qu'il faut Oui. Claire ou... C'est oui. Daniel c'est plus qu'une tendance, c'est oui.
Là, il y a un groupe qui...
Là, qui négocie. Alors.
Sur un commentaire, on a mis préjugé culturel du soignant.
Vous avez le droit, oui, soignant, oui. C'est soignant, soignant.
Alors, on attend le vote du groupe.
Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer justement pour expliciter son vote?
Oui, tout à fait.
Au contraire, c'est...
C'est un oui. Alors, 4 oui, hein, tendance, hein, Marie-Rose.
Oui, très bien. Mais si je vous, c'est évidemment, enfin, dans la littérature et dans l'expérience, ce qu'il en ressort, c'est effectivement les préjugés culturels du soignant incluant différents types de soignants et y compris les médecins. Au début, je ne connaissais pas la forme de la question que je devais poser. Je ne pensais pas que vous répondiez en oui et non. Et donc, j'avais imaginé une autre question qui était donc, quel est l'obstacle majeur en situation transculturelle? En un, j'avais mis les préjugés culturels du soignant. Et en deux, les problèmes linguistiques. Bien sûr que non, ce n'est pas les problèmes linguistiques. Parce que les problèmes linguistiques, on peut les résoudre assez facilement si justement on n'a pas trop de préjugés. En mettant un traducteur à qui on demande non pas de résumer, mais de traduire mot à mot, phrase par phrase, dans un sens et dans l'autre, et que l'on intègre dans le dispositif. Mais c'est intéressant que vous d'avoir ce recul-là, parce qu'à partir du moment où on considère que le premier obstacle, c'est nous-mêmes, d'une certaine façon, c'est plus facile, parce que nous, on peut se changer, nos manières de penser, on peut se former, on peut discuter avec d'autres, on peut regarder la littérature, on peut comparer nos et on peut modifier nos dispositifs en conséquence. Par contre, si on imagine que c'est uniquement des choses externes à nous, évidemment, c'est bien plus compliqué de modifier la relation. En Angleterre, ils ont fait une étude absolument passionnante de montrer ce qu'ils appellent les misdiagnostics. Ils ont montré quand on prend un groupe de patients. Alors, ils avaient commencé par des diagnostics psychiatriques, mais ils l'ont fait aussi dans d'autres diagnostics. Mais je connais mieux la littérature, évidemment, en psychiatrie. Ils ont recodé en revoyant des patients, donc les deux groupes, des patients migrants et des patients non migrants, et ils ont montré qu'il y avait des erreurs diagnostiques en excès chez les patients migrants, et que ces erreurs, elles étaient liées à ce qu'ils appellent du racisme institutionnel. C'est-à-dire, c'est pas un racisme d'une personne en particulier, parce que je crois que c'est pas la question du racisme individuel. On peut avoir des petits comme ça, du rejet, mais c'est pas la question. C'est plus le fait que ce soit un patient migrant, ça modifie notre relation, obscurcit nos capacités de jugement. Et évidemment, après, il y a des questions linguistiques, mais qui sont de notre faute, si j'ose dire, parce qu'on aurait pu aussi les modifier. Et ils publient ça. Mais nous, on n'a pas le droit de faire des études comme ça, par exemple. On se heurte régulièrement, nous, à la CNIL, sur des questions, puisque l'origine culturelle ne peut pas être saisie en tant que telle. C'est extrêmement compliqué de montrer que, par exemple, nous aussi, on fait des erreurs diagnostiques. On est juste obligé de faire des choses rétrospectives, mais on ne peut pas faire des grandes études prospectives comme font les anglo-saxons. Donc, on considère qu'on fonctionne à peu près comme eux, quoi.
Alors, Marie-Rose, on va demander à quelqu'un qui a voté non, de dire les raisons qui l'ont conduit à voter non, puis on terminera par une question des empêcheurs d'éduquer en rond, voilà, pour pouvoir te libérer. Alors, on vous écoute. Bon.
Oui, je vais me lever. Donc, je suis Marie van der Schuren, je suis médecin au pôle de prévention de Soissons. Alors, j'ai voté non. Effectivement, je suis d'accord qu'il y a des préjugés culturels chez le médecin, mais je pense que dans une relation, on est deux, et que le patient aussi amène aussi quelques préjugés dans cette relation. Donc, effectivement, sur le côté majeur, probablement, mais il n'y a pas que ça, et je pense qu'il faut être plus large, voilà.
Alors oui, je comprends votre nuance, si j'ose dire, mais j'avais bien mis l'obstacle majeur quand même, hein. Et oui, bien sûr, hein, que le patient lui-même, il a une représentation de nous, de ce qu'on est capable d'entendre et de ne pas entendre, de ce qu'il imagine qu'est notre position. C'est pour ça qu'en situation transculturelle, on est obligé de faire un travail d'explicitation, quoi, de dire les choses qu'éventuellement, sur des choses collectives, qu'éventuellement on n'aurait pas dit. Par exemple, l'étude sur le cancer aussi, Le Sœur et Boisiz, qui ont fait donc à Tours, à Angers, et puis je ne sais plus quelle était la troisième ville où ils ont fait ça, une ville du Sud, c'était sur l'annonce de la maladie, d'un cancer, une maladie relativement grave, quoi. L'idée, c'était de prendre des cancers graves. Eh bien, de faire des interviews après l'annonce aux médecins eux-mêmes, la question de cette simple, c'est pas simple le moment de l'annonce, mais juste centré sur le moment de l'annonce, parce qu'après il y a d'autres choses, il y a le soin, il n'y a pas que l'annonce, puis il y a vraiment les facteurs thérapeutes, si j'ose dire, les facteurs soignants sont extrêmement forts, et il faut faire on peut pas se dire bon, moi je suis très bienveillant et j'accepte toutes les représentations, ça suffit pas, quoi. Dans cette relation qui est une relation où on s'engage totalement, les questions culturelles viennent se mettre en conflit avec nos propres représentations, nos propres croyances culturelles. C'est pour ça que c'est si profond.
Alors, une question des empêcheurs d'éduquer en rond. Et puis, une.
Ben, venez.
Alors, quel est l'obstacle majeur en situation de transculturelle ? Donc, l'obstacle majeur, c'est l'informatique. Parce qu'aujourd'hui, aux urgences, maintenant, on a de l'informatique sur un ordinateur, un interinstitutionnel a calculé le nombre de secondes où chaque onglet passe et a calculé, a cumulé ce temps perdu. Je veux dire, l'obstacle majeur, il est de plus en plus là. Et l'obstacle, si on tournait la question pour les migrants, quel est l'obstacle majeur ? Ils n'ont pas de papier. Voilà. Ils n'ont pas cette sécurité de base, ils n'ont pas de papier. Après, bien sûr, on peut. C'est juste, moi, un empêcheur de tourner en rond, ce qui me vient comme ça dans ce que vous avez magnifiquement dit par ailleurs. D'autre part, une question, si on avait intitulé votre topo, rappelle-moi, Rémi, le titre du topo.
Ah. Je laisse Marie-Rose.
C'est, je ne sais plus. Je l'ai changé.
Il a changé en cours.
Faire de la. Non, mais ce n'est pas celui-là
non,
dont
pas
tu
celui-là.
Parles.
C'est pas celui-là qui est dans le programme.
Le titre qui est sur le papier, c'était malentendu, écart, dans l'éducation thérapeutique avec les migrants.
Dans l'éducation thérapeutique, on arrête là. On enlève les trois derniers mots. Qu'est-ce que vous auriez changé dans votre topo ?
Deux questions différentes, monsieur l'empêcheur. La première, alors, c'est Là, bien sûr qu'il y a des tas d'autres facteurs dont je n'ai pas parlé, qui appartiennent à la, aux migrants, surtout ceux qui sont en, en position, qui n'ont pas de papier, etc. La manière dont on les accueille, ce qu'on dit sur eux, le fait qu'actuellement, le discours politique les met en grande insécurité, même lorsqu'ils ont des papiers. Il y a des choses absolument, mais ça, c'est c'était pas dans le cœur de mon topo sur l'éducation. Bien sûr que ça... Et puis ça, c'est des éléments externes qui sont extrêmement importants parce qu'ils vont conditionner même parfois le fait que les patients puissent venir ou viennent très tard. Mais là, on est en train de parler de globalement le travail avec les migrants. Là, et je posais une question en rapport avec le topo et la question que vous avez posée. Donc, sur, en gros, sur ce qu'on est capable de changer, nous, c'est ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas... par exemple, bien sûr, dire que c'est inadmissible sur le plan éthique, sur le plan de la déontologie, se battre contre les lois et ce qu'on dit aujourd'hui sur, les langues maternelles et tout ça, c'est des choses extrêmement importantes qui vont avoir des conséquences directes dans le soin à ces patients. L'informatique, alors là, je ne commande pas, c'est évident, mais c'est autre chose, quoi. Là aussi, c'est de manière générale dans la relation avec un patient. Alors, la dernière question, et peut-être faut s'y arrêter plusieurs secondes, si vous me permettez. Est-ce que si j'avais parlé des patients en général, de tous les patients, j'aurais dit la même chose? Alors, d'abord, moi qui, entre guillemets, suis une spécialiste des migrants, je m'occupe de tous les patients. Hein. Mes dispositifs transculturels sont toujours, d'abord à Bobigny et maintenant aussi à Cochin, mais dans un service, j'ai un des plus beaux services architecturaux de Paris. Bah oui, et ben ça n'empêche que c'est dans celui-là qu'il y a ces questions. Donc c'est pas un endroit spécifique qui serait un ghetto, qui serait non, c'est pour tout le monde. Et dans ce dispositif qui est pour tout le monde, dans ce lieu qui est pour tout le monde, il y a des choses particulières lorsqu'il y a des malentendus qui viennent compromettre la relation. Alors, au nom de l'universalité psychique, ce qu'on a dit, ce que j'ai dit en tous les cas de ces questions-là pourrait se généraliser, mais à condition que justement en situation avec tout le monde, on prenne soin de chercher aussi comment ils se représentent l'être, le sens, le faire, etc., et qu'on discute et qu'on négocie. Mais peut-être la différence est là où donc sur ces points-là, je serais d'accord avec vous, mais sur un dernier point, je ne serais pas d'accord, c'est-à-dire que en transculturel, comme on ne partage pas ces représentations culturelles, il y a de notre part un effort à faire pour que ces éléments-là soient autorisés dans la relation. Et cet effort, il faut le faire de manière avec méthode, avec rigueur, et on a des méthodes, et on a des disciplines comme l'anthropologie ou la linguistique qui vont nous aider à le faire. C'est plutôt donc une sorte de potentialisation qui découle de la situation transculturelle, mais bien sûr que ce détour par le transculturel montre des choses qui appartiennent à tous. Hein, on est bien d'accord.
Grand merci, Marie-Rose. On vous invite à aller lire, à vous abonner à la revue L'Autre. Revue remarquable hein, sur la transculturalité. Et puis, Marie-Rose invite merci, à la Maison de Solène. Ouais. Voilà, grand merci.